Je vous invite à rester debout pour la louange dans laquelle vont nous conduire les jeunes de l'année de caté de cette année, de dernière année. Jean, Louise et Constance, que nous connaissons déjà puisqu'elle était là l'an dernier, qu'elle a fait sa confirmation début septembre. Donc, c'est eux qui vont nous amener, nous conduire, enfin Constance et Louise, dans la louange. Venez.
Père, tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants.
Que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en réveillant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse.
Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en s'offrant à toi, que mon corps te loue, demeure de ton esprit, que tout en moi te rende gloire. Amen. Et nous chantons les strophes 4 et 5 du psaume 33. Fin septembre, lors de la première séance de travail des écoles bibliques, il a été remis une Bible de la part de toute la paroisse aux enfants en dernière année dans le groupe des plus grands de l'école biblique. Aujourd'hui, qui est aussi une séance d'école biblique et de pré-caté, eh bien, nous allons remettre cette Bible aux enfants, aux jeunes qui font partie du groupe de pré-caté. Le groupe de Serge, si tu veux bien venir, Serge. Ainsi que les enfants de ce groupe. Sophie, viens. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Alors, ils ne sont pas tous là, mais au moins ceux qui sont là. Il manque Elsa. Voilà. Il manque juste Elsa, ouais. Qui est en week-end d'éclaireur.
D'accord.
Donc cette Bible, c'est vraiment de notre part à tous, pour qu'ils puissent avancer dans leur année de catéchisme, et puis avancer aussi parce que la Bible, c'est un livre de marche, c'est un livre de questions, c'est un livre de vie, et c'est bien ce que nous souhaitons et espérons pour eux, c'est que leur vie se déploie autant que cela sera possible. Voilà, si tu veux bien nous les présenter.
Donc, Suzanne, Alexandre et Sophie, qui sont donc dans cette année de l'histoire de l'Église.
Voilà, et merci à Serge d'assurer cette année depuis de longues années.
De longues années, oui.
Et avec autant de fidélité que d'enthousiasme. Voilà, vous les connaissez maintenant, vous pourrez les encourager, les accueillir quand vous les verrez et les accompagner pendant toute cette année de caté. Merci à vous. Donc aussi bien le groupe de Serge que les groupes des écoles bibliques avec Christophe et Leïla vont regagner leur salle pour leur séance de ce jour. Nous allons maintenant écouter la volonté de Dieu pour nos vies. C'est Louise qui va nous la faire entendre dans un extrait de l'Évangile selon Luc. Après, nous chanterons le spontané qui est à la page 21. Nous suivrons la liturgie de ce livret à partir de la page 21.
Luc, chapitre 10, versets 25 à 28. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. »
Nous nous recueillons dans la prière de conversion, celle dans laquelle nous nous tournons vers Dieu de tout notre être. Ô mon Dieu, mets la joie dans mon cœur, afin que j'en répande autour de moi. Mets la paix dans mon cœur, je t'en prie, et aussi ton souffle, afin que je retrouve le mien. Mets la vie dans mon cœur, afin que j'aime chaque jour.
Mets la vie dans mon cœur, afin que je comprenne ce que dit le monde. Mets la paix dans mon cœur et ton souffle, afin que mes paroles et mes gestes soient fraternels. Ô mon Dieu, mets ta joie dans mon cœur, afin que j'aime chaque jour. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de la grâce et du pardon.
aux jours de soleil brûlant, aux nuits sans étoiles, au temps du désarroi, aux heures de fatigue. Elle t'attend, au cœur de toi-même, au cœur de ton être. Elle est là, la grâce douce et abondante, la grâce fraîche et vivifiante. Et elle ne tarira jamais, car celui qui la donne, celui qui l'a fait couler en toi, est le Dieu d'amour éternel.
Nous restons debout car voici le moment de confesser notre foi. Je crois en Dieu qui a créé l'humanité, hommes et femmes, à son image. Il nous confie le soin d'achever la création d'un monde fraternel, au service les uns des autres. Malgré le mal et la souffrance, je crois que Dieu a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en Dieu qui croit en l'humain. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'humain et face humaine de Dieu. Il a été attentif aux faibles, aux exclus et aux méprisés. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Pour notre bonheur, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout humain et qui nous engage dans l'amour et le service du prochain. Je crois que nous sommes capables de faire une terre meilleure. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Amen. Et je vous invite à chanter, non pas le spontané, mais au cantique 256. Célébrons Dieu notre Père, le cantique 256, nous chantons les trois strophes. prenez place. Et avant que Jean ne vienne lire le texte qui portera notre méditation ce jour, nous prions. Sans ta parole, ô notre Dieu, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Par ton esprit, puissions-nous recevoir ta parole, ô notre Dieu, comme la vie de notre vie. Amen. Le texte que Jean va lire, le texte d'Évangile, c'est celui qui a servi de trame, de base, peut-être aussi d'élan, d'envol, à la séance de caté de ce matin. Nous entamons un parcours avec les jeunes du caté sur le thème des rencontres. Alors, voici la rencontre que nous avons lue ce matin.
Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. » Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite.
Au début, tout se passe comme d'habitude. Une journée de travail ordinaire pour les pêcheurs de la mer de Galilée, celle qui est aussi appelée dans la Bible mer de Tibériade ou lac de Génézareth. Oui, parce que c'est un lac et pas une mer ouverte. Ou encore lac de Kinnéret. Simon et André, deux frères, pêchent. Ils lancent le filet dans ce très beau geste large et puissant que vous connaissez peut-être, celui de la pêche à l'épervier. Et l'épervier étant le filet, pas l'oiseau. Et ils le lancent, ce filet, afin de pêcher des sardines. Oui, dans le lac de Galilée, dans la mer de Tibériade, on pêche des sardines. Des sardines d'eau douce, qui composent le menu quotidien des riverains du lac. Un peu plus loin, Zébédée, patron de pêche, se trouve dans sa barque avec ses deux fils, Jacques et Jean, et ses employés. Jacques et Jean réparent les filets qu'il est important de tenir en bon état afin qu'ils puissent durer assez longtemps. Bref, une journée ordinaire. Peut-être de temps en temps un coup d'œil pour surveiller le vent, les nuages, car les tempêtes qui dévalent des hauteurs environnantes, la mer de Galilée se situe à moins 200 mètres sous le niveau de la mer. Eh bien, ces tempêtes qui dévalent sont très violentes sur le lac. Une journée ordinaire, comme la journée précédente, celle de la veille, et nul doute que celle du lendemain sera tout à fait semblable. Une inscription continue, que personne ne remet en cause. Certainement, aucun de ces hommes ne se demande ce qu'il va devenir. Tout semble déjà tracé pour eux. Oh, peut-être s'interrogent-ils quand une tempête emporte une barque, des pêcheurs, des amis, ou détruit les filets. ou quand des troubles politiques surviennent, car l'Empire de Rome a la main lourde sur les territoires occupés. Mais sinon, chaque jour, Simon et André pêchent. Et un jour, Jacques et Jean prendront la suite de leur père comme patron de la barque. Que vais-je devenir ? C'est une question de temps d'incertitude ou de temps de crise. Quand demain est indiscernable, quand le monde a perdu sa forme familière à la suite d'un accident, d'un deuil, d'une maladie, d'une rupture, d'une perte de son travail. C'est une question qui se lève quand l'horizon est indistinct, que ce soit dans la jeunesse, même dans l'adolescence, comme la vôtre à tous les trois. Et il arrive de s'interroger sur son avenir entre les choix, les avis, les impératifs, les conseils et les désirs encore flous. C'est une question aussi qu'on peut se poser beaucoup plus tard, quand l'âge vient altérer les facultés, raréfier les possibilités, accentuer la solitude, menacer l'autonomie. Mais cette question rôde également de manière collective. Qu'allons-nous devenir ? Entre coronavirus et changement climatique, entre crise économique et bruit de guerre, défis technologiques et interrogations éthiques. Certains veulent maintenir autant que possible ce qui était, d'autres cherchent comment s'adapter, d'autres encore souhaitent une profonde transformation des manières de vivre et des sociétés. Que vais-je devenir ? Qu'allons-nous devenir ? La question est souvent anxieuse, voire cruelle, accompagnant une sensation de résignation ou d'enlisement, la sensation d'être englouti ou recouvert, une expérience d'extrême confinement, une impossibilité de se trouver ou de se rencontrer soi-même. Et ce jour-là, oui, au bord de la mer de Galilée, tout est bouleversé. Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean laissent leur père, la barque et les employés. Une parole leur a été adressée qui justement leur indique un devenir inattendu et même inouï. Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. Jésus est passé par là. Pêcheur d'humains. L'expression donne à penser. Elle oblige à penser, comme bien des mots, des expressions et des récits de la Bible. Simon, André, Jacques et Jean savent pourquoi ils pêchent. Il faut attraper des poissons pour qu'ils soient mangés. Triste sort que celui des sardines du lac de Galilée. Elles n'ont aucune chance. Une sardine n'est pas un cachalot. Herman Melville n'aurait pas pu écrire Moby Dick en s'inspirant des pêcheurs du lac de Tibériade. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas de pêcher des humains pour les faire périr. Au contraire, Jésus qui proclame la bonne nouvelle de Dieu, qui annonce que le royaume de Dieu s'est approché, ne parle et n'agit que pour le bien des humains, pour les faire vivre. Devenir pêcheur d'humains, ainsi, c'est les sortir de l'eau, ces humains. Leur donner de l'air, ne pas les laisser dans un état semblable à celui des poissons, muets et comme des proies dans la destinée, dont le destin est d'être attrapés par des filets pour être dévorés. Et Louise l'a dit tout à l'heure, être pêcheur d'humains, en fait, c'est être un repêcheur d'humains, comme on dit repêcher pour donner une chance ou une deuxième chance. À ceux qui deviendront ses disciples, Jésus ne dit pas « Je vous ferai devenir de super humains », même pas de super croyants. Il ne leur dit pas « Je vous donnerai une foi à déplacer les montagnes, je vous transformerai en anges du ciel ». Pas du tout. « Je vous ferai devenir des pêcheurs d'humains. Cette existence qui devient la vôtre sera au bénéfice d'autrui. Ce désir d'être vivant, cette énergie de vie qui vous habiteront, vous les partagerez avec d'autres » qui sont privés de voix, de parole, privés d'air, de souffle, d'autres qui sont menacés d'être attrapés dans des filets de fausses promesses, de marchandages, de paroles vaines, de tous les bonimenteurs qui s'expriment à la surface de la terre. Pêcheurs d'humains. C'est l'affirmation de la primauté de l'humain sur la religion, sur les doctrines, sur les idéologies. D'abord les humains, afin qu'ils soient vivants, qu'ils deviennent vivants. Jésus, qui proclame la bonne nouvelle de Dieu, qui annonce que le royaume de Dieu s'est approché, ne parle et n'agit que pour le bien des humains, pour les faire vivre. Et c'est à cela même que Jésus appelle non seulement Simon, André, Jacques et Jean, mais chacun de ceux qui entendent, d'une manière ou d'une autre, son appel à devenir. Et les quatre hommes répondent à cet appel en suivant Jésus. Aussitôt, ils le suivirent. Manière de dire qu'ils choisissent d'accrocher, d'appuyer leur vie, leur être, à cette parole qui les reconnaît, à cet appel qui les saisit. C'est cela, le genre de réponse que la Bible offre. Une réponse, pas tant à une question, mais une réponse à un appel, une responsabilité d'humain pour les humains. C'est une réponse qui engage à l'existence, à aller plus loin, autrement que chacun est au moment où il entend l'appel. Parce que dans cet appel, il est question de vivre et de faire vivre. Et faire vivre, c'est une autre manière de dire aimer. Celui ou celle qui répond devient alors capable d'écrire son histoire. C'est-à-dire de ne plus la laisser être écrite, cette histoire, seulement par le flux des événements ou par des choix qui sont faits par d'autres. Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean laissent leur père. La réponse à l'appel s'appuie sur la confiance en cette parole d'appel et de promesse. Parole entendue comme s'adressant à soi, à toi, à moi. Parole d'avenir, parole de devenir. Pêcheur d'humains, ce n'est pas un métier. Jésus n'est pas un recruteur, ni un chasseur de tête. Et d'ailleurs, aucun des quatre n'est particulièrement compétent à autre chose que la pêche à la sardine. Ils ne sont pas spécialement sages, ni même spécialement, particulièrement pieux. Pêcheur d'humains, c'est une vocation, une autre manière de considérer à la fois son métier, mais aussi toute sa manière de vivre, soi-même et autrui. Une vocation qui s'ancre dans la singularité de ces pêcheurs de poissons, chacun désigné par son nom, en leur permettant de comprendre ce à quoi ils sont appelés. D'autres peuvent recevoir cette vocation, entendre cet appel en étant enseignants, et ils deviennent enseignants d'humanité. D'autres en étant soignants, et ils deviennent soignants d'humains. D'autres en étant mécaniciens, et ils deviennent réparateurs d'humains. Parce que c'est déjà ce que le Christ aura fait pour eux, de les enseigner, de les soigner, ou de les réparer. De même que Jésus a commencé par pêcher Simon, André, Jacques et Jean, en leur sortant la tête de l'eau de leur lac quotidien pour les mettre au large dans l'humanité, la leur et l'humanité dans son ensemble. Jésus le Christ pêche et envoie pêcher, non avec des filets, mais avec cette parole de bonne nouvelle, parole d'évangile, une parole de grâce, une parole gratuite qui ne se fait pas payer et qui n'a rien à vendre. Le temps est accompli. Le royaume s'est approché de Simon, d'André, de Jacques et de Jean, qui sont appelés à aller à l'eau, les eaux troubles, les eaux boueuses, les eaux vaseuses, à la rencontre des humains qui ne sont encore que poissons, pour les repêcher, pour les en sortir de ces eaux, pour les accompagner au grand air, dans le vent. Ainsi le royaume s'approche de tous ceux qui entendent l'appel et y répondent, chacun à leur manière, en gardant, en chérissant l'écho, la trace de cet appel qui les envoie participer à l'œuvre divine de création. Ceux qui gardent et chérissent l'écho, la trace de cet appel, en célébrant par toute leur vie l'inconditionnelle bonté de Dieu. Amen. Quelques annonces pour la semaine et des annonces plus générales. On va commencer peut-être par celle-là. Dimanche dernier, le 4, il y a eu l'Assemblée générale de l'Entraide, hein, l'association 1901 d'Entraide adossée au foyer de l'âme. Eh bien, cette Assemblée générale s'est bien passée. Mais j'en profite pour vous inviter, vous qui n'êtes pas adhérents de cette association, à le devenir. C'est une association qui œuvre au sein de la paroisse et dans d'autres lieux, qui rassemble également des personnes de la paroisse, mais aussi des bénévoles pour les cours de français ou pour l'hébergement des personnes migrantes que nous accueillons, que nous hébergeons pour une nuit, aussi des personnes d'autres paroisses. Vous trouverez, si vous n'êtes pas encore membre de cette association, des bulletins d'adhésion qui sont dans un des présentoirs sur la table au fond du temple. Cela coûte la modique somme de 20 euros pour l'année et cela permet à cette association beaucoup d'actions directes ou indirectes en solidarité avec ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à devenir membre de l'association d'entraide. Vous rappelez également, c'est indiqué dans le bulletin de l'amitié que vous avez reçu, qu'à partir du mois prochain, l'amitié sera envoyée par mail aux personnes ayant une adresse mail. Si vous avez une adresse mail, mais que vous souhaitiez le recevoir encore sous sa version papier, il faudra nous le signaler. Et si vous avez une adresse mail, mais que vous ne l'avez pas encore donnée, bah profitez-en pour nous la donner. Cela permettra d'imprimer, d'envoyer moins de bulletins papier. Et de toute façon, il est bien entendu que tout le monde continuera à avoir un bulletin et que les personnes qui n'ont pas de mail continueront à recevoir la version papier. Mais nous en enverrons considérablement moins, ce qui permettra à la fois d'envoyer à plus de personnes, d'augmenter le nombre d'informations et d'articles du bulletin et finalement de faire des économies. Que des bonnes raisons pour ce passage au numérique. Une autre annonce générale pour vous dire que cette année, nous ne pourrons pas organiser et assurer la fête de l'amitié comme nous le faisions les années précédentes, tout un week-end de stands dans le temple, un temple ouvert pour les passants, les amis, les paroissiens, bien sûr, des rencontres, des repas, un stand de café, de gâteaux, ce n'est pas possible. Donc le conseil presbytéral en a un peu parlé, le comité, les personnes qui organisent cette fête habituellement se sont réunies et il sera plutôt envisagé de proposer sur 4 dimanches à partir du 15 novembre jusqu'au 6 décembre un seul stand qui sera installé dans le temple, mais en un seul endroit, proposant un peu de chaque, de plusieurs stands que nous avions l'habitude de proposer, de confitures, d'objets d'art, des réalisations d'Andrea, des tricots, layettes, un peu de vaisselle, etc. Un petit peu de chaque stand réuni sur un seul stand, et puis il sera proposé aussi dans chacun de ces 4 dimanches des plats à emporter et quasiment même un repas. Vous serez avertis de ce qui sera au menu. Vous pourrez soit en commander ou acheter ce qui reste. Mais pendant ces 4 dimanches, ne prévoyez pas trop à faire à manger. Il y aura ici de quoi emporter des repas préparés soit par des amis de la paroisse, soit par des amis de la communauté malgache, soit par des amis de la communauté camerounaise. Et il y aura aussi des desserts. Donc ces 4 dimanches à partir du 15, 22, 29 et novembre et 6 décembre, cela permettra de ne pas manger ensemble, c'est vrai, mais au moins quand vous serez chez vous, vous direz je pense, et cela a été préparé par les amis de la fête de l'amitié. Il y aura aussi une tombola, parce que ça, on peut le faire sans crainte pour la santé des uns ou des autres. Et pareillement, les tickets seront mis en vente à partir du mi-novembre. Donc, vous comprenez bien qu'avec tout cela, nous vous prions vraiment de ne rien apporter. Cette année, nous ne prenons pas ni vêtements, ni livres, ni objets d'occasion, parce que nous en avons déjà énormément, le stockage est limité, donc merci soit de les garder pour l'année prochaine, ou de les donner à d'autres œuvres et institutions qui pourraient en avoir besoin. Nous communiquerons plus en détail hein, sur cette nouvelle version de la fête de l'amitié, cette version un peu étalée. Isabelle, j'ai rien oublié de très important? Donc voilà, on pourra en reparler aussi de manière plus personnelle si vous le souhaitez, mais voilà, sachez dès à présent qu'il y aura une autre configuration due aux contraintes de l'actualité. Alors, dans les annonces pour la semaine qui vient, que je prenne la bonne page. Oui, c'est ça, c'est la semaine. Alors, mardi 13, il y aura un conseil presbytéral qui se réunira donc dans la salle du second. À jeudi le 15, il y aura de 12h30 à 13h30 le temps spirituel qui permet à ceux qui le souhaitent de se poser, de faire une pause. Un temps de silence, un temps de musique, un temps de lecture d'un bref passage de la Bible et de libre partage autour de ce texte, et puis un temps de prière. Donc tout cela dans cette heure entre midi et demi et 13h30, jeudi 15. Et puis aussi pour que vous sachiez que d'autres groupes travaillent, à 19h le 15, il y aura déjà la préparation de la fête de Noël par les moniteurs et les catéchètes de la paroisse. Samedi 17 à 10h30, c'est le groupe Évangile et Liberté qui reprend ses réunions dans la salle du second sur l'article d'André Gounel du numéro de juin, juillet, août. Et puis dimanche 18, le culte sera assuré par le pasteur Philippe Kabongombaya, qui est donc pasteur de l'Église protestante unie, mais qui est à la retraite, mais qui est surtout, enfin qui est toujours, le président du mouvement du christianisme social. Donc il viendra nous faire l'amitié de venir présider le culte dimanche 18. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire, Isabelle? Ah oui, oui, bien sûr, viens.
Bonjour, Dominique a parlé de vente. Alors en fait, là, j'ai un petit cadeau à vous proposer. C'est une nouveauté, un triple CD enregistré par Freddy Eichelberger au clavier et Odile Edouard au violon. Et ça, c'est les trios pour clavier et violon de Bach. Ce CD vient de sortir. Freddy nous en a donné une vingtaine au Foyer de l'âme en remerciement de l'orgue dans lequel, enfin des temps passés à l'orgue dans lequel il a partiellement enregistré ce CD. Ce CD a été enregistré sur plusieurs orgues. Voilà, donc en fait on vous propose ces CD au prix de 23€, c'est le prix public, à la fin du culte, si vous êtes intéressé. Mais j'ai pas de monnaie.
Merci. D'autres choses à se dire? Sinon, alors je remercie Constance, Louise et Jean pour leur accompagnement dans ce temps de culte. Et voici le moment de l'offrande, et cette offrande qui est un don, eh bien, qu'elle soit joyeuse, c'est-à-dire vraiment libre, qu'elle vienne vraiment du fond de votre cœur. Pendant cette offrande, nous chanterons le cantique 244 en entier, qu'aujourd'hui toute la terre. Donc nous nous levons pour chanter. Prenez place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Délivre-nous, ô notre Père, des crispations qui nous empêchent de discerner la présence du Christ vivant, d'entendre ses appels, de vivre avec lui une vie nouvelle. Cette confiance en ta présence, qu'elle vienne en ceux qui n'arrivent pas à voir au-delà de leurs évidences quotidiennes, à travers tout le poids de découragement qui les accable. Que ta parole vivifiante parvienne aux malades, aux effrayés, aux endeuillés, pour percer leurs ténèbres, et qu'elle leur apporte ta confiance en eux. Que ta parole rejoigne ceux qui travaillent pour la mort, par orgueil ou par lâcheté, par lassitude ou par indifférence, ou dans une idéologie d'asservissement. Ne les laisse pas s'enfermer définitivement, ni continuer à fermer les portes de la vie, les portes de ton royaume, à tous ceux qui en ont besoin. Permets-nous, Père, d'être dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, des témoins de ta bonté et de ta volonté. Oui, fais-nous devenir des pêcheurs d'humains et que nous puissions l'être humblement, avec persévérance et joyeusement. Et ceux qui le souhaitent peuvent dire à voix haute avec moi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur et nous chanterons ensuite le spontané de la page 25 avant de nous rasseoir pour écouter le dernier jeu d'orgue. Frères et sœurs, amis, l'amour de Dieu vous habite, la paix de Dieu vous environne, la joie de Dieu vous illumine. Alors allez et vivez. Dieu vous garde en son amour. Amen.